c'est une situation d'extrême fragmentation, chaotique. Le groupe État islamique a été défait à Sirte. Et comme on pouvait s'y attendre, cette défaite et donc la quasi-disparition du groupe du paysage libyen révèle les rivalités extrêmement violentes qui opposent les acteurs. Alors, on a, pour schématiser une situation qui est extrêmement complexe, on a une polarisation, je dirais, triple. D'une part, un gouvernement d'union nationale à Tripoli, donc le gouvernement reconnu par la communauté internationale, qui donc a pris part à la bataille contre le groupe État islamique autour notamment des groupes armés de Misrata, donc dans l'ouest libyen, qui sont donc rattachés au GNA, au gouvernement d'union nationale. On a un deuxième pôle qui, lui, est à l'est du pays, dans la région de Cyrénaïque, qui est contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar et donc l'armée nationale libyenne, qui, elle aussi, mène un certain nombre de combats contre des groupes djihadistes, donc basés, actifs dans la partie orientale du pays. Ces deux camps s'affrontent depuis maintenant plusieurs années. On a un troisième camp, je dirais, qui est plus complexe, plus fragmenté et beaucoup plus opaque, qui est le paysage tribal, parce que la Libye est un pays de tribus, et les tribus étant elles-mêmes très divisées, certaines se sont alignées sur le camp de Tripoli, d'autres sur le camp d'Haftar, à l'est, et d'autres, eh bien, je dirais, poursuivent des stratégies qui leur sont propres et sont elles-mêmes entre elles divisées. Donc, comme vous le voyez, on a un paysage avec donc deux gouvernements concurrents, un certain nombre de factions armées, de milices qui combattent effectivement communément l'État islamique, les groupes djihadistes, mais qui ne sont pas pour autant des alliés. Et on peut craindre donc effectivement eh bien, une dégénérescence de la situation, puisque chacun de ces acteurs veut avancer désormais ses pions. Il y a des enjeux de pouvoir et évidemment, je rajouterai à cela, des enjeux de contrôle des ressources. Alors on a déjà un certain nombre d'affrontements. Je ne dirais pas qu'on est tombé dans une guerre civile identique à celle, par exemple, qui sévit en Syrie, autour d'une même logique fragmentaire, mais on peut s'attendre effectivement, malheureusement, à des divisions très très violentes et à des affrontements qui vont se poursuivre, encore une fois, pour le pouvoir politique et évidemment pour le contrôle des ressources, puisque la Libye est un pays riche en pétrole, ce qui ne vient pas faciliter les arrangements sur le terrain et la concorde nationale. Et
justement, comment peut-on éviter la menace d'un conflit généralisé dans ce cas ?
C'est très difficile parce que l'ONU est impliquée, l'ONU a tenté un certain nombre de médiations qui ont été plus ou moins, je dirais, réussies tout de même dans le passé si on compare la situation libyenne par exemple à la situation syrienne où l'ONU a été quasi enterrée, mais où la Russie est également un élément, un acteur de premier plan, ce qui n'est pas le cas en Libye. Il faut absolument mettre fin à l'escalade, notamment actuellement dans le sud libyen. Hein, parce que le sud aussi est concerné par ces affrontements, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire, compte tenu de l'autonomie des acteurs locaux, que la communauté internationale va pouvoir arrêter les violences. Parce qu'on est quand même dans des configurations qui sont propres aux acteurs locaux. Et comme on l'a vu, il est très difficile, notamment dans le cas de la Libye, d'infléchir des stratégies qui, encore une fois, concernent les protagonistes du conflit. Et malheureusement, je crois qu'il sera difficile d'arrêter, dans l'immédiat en tout cas, les violences. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a un rôle pour la communauté internationale et que l'ONU doit absolument relancer la médiation entre ces différents groupes pour éviter de perdre les gains réalisé notamment contre l'État islamique.
Justement, l'émissaire de l'ONU en Libye, l'Allemand Martin Kobler, a exhorté les principales factions rivales à faire preuve de retenue. Comment peut-on éviter des conséquences justement dramatiques pour la région ? On sait que le Tchad, par exemple, a fermé sa frontière avec la Libye.
On va, dans tous les cas, à mon avis, pour éviter la contagion, qui est déjà une réalité, il ne faut pas se mentir. Si on prend le cas de la Tunisie, par exemple, c'est très clairement déjà une réalité quand on voit l'activité djihadiste qui a été largement rehaussée du fait de la situation chaotique en Libye. Évidemment, plus au sud, les frontières étant quasi inexistantes, il faut quand même le dire, les flux de combattants d'armes, de migrants, parmi lesquels se sont infiltrés un certain nombre de combattants, d'allégeance djihadiste. Tout cela est très difficilement maîtrisable, donc évidemment on va vers des fermetures de frontières, ce qui est déjà par exemple le cas avec l'Algérie. L'Algérie a son armée déployée à la frontière pour éviter justement les effets de contagion. Bon, ça a été, je dirais, le pays dans la région qui a été le plus efficace pour rendre hermétique sa frontière et éviter effectivement ces flux qui ont déjà cours largement, comme je dis, dans le sud et puis avec la frontière avec la Tunisie. Donc évidemment, malheureusement, du fait de l'ampleur des bouleversements à l'œuvre dans la région, du fait de la difficile maîtrise de ces flux de combattants d'armes et autres, je rajouterai à ça les trafics, la contrebande, encore une fois autour de la richesse pétrolière qui rend, je dirais, un contrôle efficace difficile, on va inexorablement vers des frontières scellées et, comme je l'ai dit, une situation libyenne qui va être gérée en interne par un certain nombre d'acteurs, avec l'appui, en tout cas pour ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent essayer d'éviter l'escalade, l'appui de la communauté internationale. Mais encore une fois, pour l'instant, on est malheureusement dans des logiques de représailles, de règlement de compte post-État islamique, qui d'ailleurs, si les choses dérivent, vont favoriser le retour de l'État islamique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État islamique a bâti sa popularité, a bâti sa force militaire symbolique et je dirais même sociale sur la faillite des États, sur cet état de chaos qui a toujours profité aux factions les plus radicales. Donc il faut absolument, de toute façon, qu'il y ait maîtrise rapide de la situation et entente, même à minima, pour éviter que les gains réalisés dans la bataille de Sirte et dans tout autre fief qui avait été conquis par ce groupe, eh bien, soit perdu. Voyons comment les choses évoluent. Malheureusement, je crains qu'on aille dans les semaines qui viennent vers des violences et, encore une fois, autour de logiques, de règlements de compte, de représailles qui sont, dans un contexte de guerre civile, malheureusement inévitables.